Merci à
vous. Du coup, j'enseigne. Merci infiniment d'être là. Et puis, merci à vous. Et puis, merci Stéphanie. Parce que c'est trop chouette de pouvoir parler d'un livre qui est aussi vivant et dans lequel il y a autant de voix avec d'autres interlocuteurs. Et donc pour vous dire un peu ce que c'est ce livre, c'est vraiment une imbrication de plein de collaborations. Et d'abord du coup quatre traductrices qui sont à l'initiative de cette idée, donc de traduire des autoristes du Brésil, qui ont elles-mêmes proposé à trois commissaires d'exposition de choisir chacune 5 autorix. Et du coup ça fait comme ça pas mal de monde et de relais et d'une manière assez très spécifique de construire quelque chose qui ressemble à une anthologie, à un recueil, mais du coup de manière avec une direction qui est déjà très collective avant même que le travail de traduction le soit. Et du coup là je vais peut-être juste citer les éditrices qui présentent beaucoup, tout à fait de façon fascinante ce livre dans une préface qui est donc l'introduction au livre. Et du coup elles écrivent justement ni anthologie ni panorama. Ce livre est un recueil de textes à lire à voix haute qui réunit dans les limites de ses pages des productions artistiques contemporaines créé à partir de l'exercice de l'écriture par des artistes et des personnes racisées qui recherchent et articulent des dissidences multiples. Sollicitant notre corps depuis son titre, la publication, curatée et éditée par la penseuse et artiste Abigail Campos-Léal, la chercheuse et artiste Cynthia Guedes et la curatrice et chercheuse Diane Lima, trois noms engagés dans des luttes anticoloniales et dans les multiples dissidences au sein de l'art contemporain, des études académiques et des mouvements sociaux au Brésil, convoque celui qui lit à une performance. Celle-ci sert à nous alerter de l'urgence d'incorporer ces mots comme un geste politique. Et ici, les mots ne sont pas seulement des exercices de la pensée. Et du coup, on avait vraiment envie de les faire vivre avec vous, du coup, et avec les mots, et de sortir le livre de la page. Et cette question justement de sortir du livre de la page et aussi d'habiter la page aussi comme un lieu, c'est quelque chose qui, avec les éditions Brooke, qui sont du coup la maison d'édition associative aussi avec lesquelles on publie le livre, enfin cette question de passage et d'habiter un texte comme un espace social, c'est aussi quelque chose qui a été travaillé dans une autre traduction collective qu'on a publiée l'année dernière d'un texte de Fred Moten et Stefano Arni qui s'appelle The Undercommon. Et dans lesquels on trouve aussi cette volonté de prendre le texte comme un lieu, comme un lieu de recherche, comme une manière aussi de se faire des amis tout simplement, ou de travailler avec des amis, et du coup de penser ensemble des questions de lutte et d'amour. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi vachement dans le livre et dans la manière de travailler que vous avez de travailler ensemble, qu'on a pu avoir de travailler ensemble du coup quand moi je suis arrivée un peu après coup, et puis dans l'écriture, dans les mots, dans les vers, dans la poésie, dans les essais, dans ce qui relève plus peut-être du manifeste ou de la science-fiction, enfin tout ce qui se retrouve ensemble à l'intérieur de ce livre. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Que c'est aussi pour ça qu'on avait envie d'être en conversation sur le processus de traduction collective, justement, et ce qu'on va vous proposer après l'écoute des lectures par chacun ici.
Et puis, oui, justement, c'était dit, moi, il y avait aussi un passage de cette préface écrite par les trois éditrice, curatrice de la publication, j'avais envie de lire parce que ça résonne autant justement avec le fait de faire des lectures à voix haute, puis aussi sur les processus de traduction. Du coup, je lis juste aussi un extrait de cette préface qui dit « Les impossibilités de traduction, délibérément alimentées dans cette publication, informent sur quelque chose qui, depuis certaines positions, ne peut être réarticulé, désarticulé, uniquement cassé. » La poésie, qui même en langue originale garde ses portions intraduisibles, traverse les textes à lire à voix haute dans beaucoup de directions. Il vaudra mieux en être témoin en les laissant s'échapper par la bouche comme des prophéties et des malédictions, plutôt que d'essayer de les comprendre. Y accéder par le rythme ou par sa cassure, telles sont les possibilités d'enclencher des leviers pour la désarticulation de la colonialité du pouvoir dans ses implications de race, genre et sexualité. Et aussi, peut-être avant de commencer les lectures, on se disait que c'était chouette de rappeler justement que ça a été un assez long processus de traduction qui a duré 4 ou 5 ans. Ouais. Et puis que durant lequel aussi on avait reçu plusieurs invitations à parler du livre, et puis que dans deux occasions on avait créé des podcasts avec des lectures de textes qui étaient souvent encore en traduction. Une fois, c'est Stéphanie qui nous avait invité justement, et une fois c'était le théâtre de l'usine pendant le premier confinement, pendant la pandémie. Et puis que dans ces contextes justement, pour nous ça avait été aussi important d'inviter autant des personnes, des artistes à lire ces textes, et puis des personnes qui étaient aussi concernées par les enjeux de race, de genre qui sont présents dans les textes à lire à voix haute. Et puis c'était dans le deuxième podcast justement, Nayan Sakou avait participé pour lire un texte de Elton Panambi qui est présent dans les textes. Et puis j'ai l'impression que ça avait été chouette, puis que ça avait participé aussi à ce mouvement qu'on essayait aussi de faire en traduisant ces textes, qui puissent avoir des échanges entre le Brésil et la francophonie par la traduction de ces textes. Et puis que du coup, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de te réinviter à lire cette fois un autre texte de la publication. Voilà. Et merci beaucoup d'avoir accepté, du coup.
Merci de me réinviter.
J'ai oublié de dire pardon, quelque chose, c'est que l'installation ici sur laquelle on entoure et sur laquelle on peut s'asseoir, elle a été faite par un artiste qui s'appelle Le Son. Et Yael est très content si on l'utilise, juste de faire gaffe parce que vous avez fait spontanément et d'enlever les chaussures. Voilà. Sentez-vous libre aussi de bouger, de vous mettre dessus, ça
c'est très confortable.
Profitez, c'est vraiment excessivement confortable. C'est assez un vortex comme ça, c'est très agréable.
Et du coup,
ça se présente
tout encore.
Ah oui,
ouais.
Tu veux y être ? Ouais. J'ai réfléchi à l'intro du projet qui a 4 ans. Ouais. Bon, on en a dit l'essentiel, mais peut-être qu'on reviendra un petit peu sur comment le projet est né vraiment. L'idée, pourquoi, et voilà, le processus peut-être à la fin. Mais moi je m'appelle Valentina Devenia, je suis curatrice, et traductrice en faisant ça. Tout d'un coup, je suis devenue traductrice, mais je ne suis pas du tout traductrice professionnelle. On se professionnalise en faisant, un peu, je pense. C'est dans le contexte d'une expo qu'on a faite, en fait, qu'est venue l'idée de traduire des textes, et ça s'est transformé en livre. Et du coup, les temporalités se sont complètement distendues, puisque l'expo elle a eu lieu en 2019 et le livre il est sorti en 2022. Donc voilà.
Alors, moi je suis Luana, je vis à São Paulo, au Brésil. Je suis professeure de portugais et de français aussi. Mais ici, j'ai vu que je ne parle pas très bien le français. Alors, et je fais au master, je traduis un livre de Marquis de Sade. Mmh. C'est comme ça que la traduction elle est entrée dans ma vie. Mmh. Et après, j'ai connu Valentina et le projet est né. Tu peux te présenter ? Non ?
Je m'appelle Léa Meillard, et puis je suis artiste, puis au début de ce livre j'étais surtout là plus comme coordinatrice, organisatrice, puis au fil du processus de traduction qui a duré assez longtemps, j'ai commencé à faire de la traduction aussi, mais pas non plus de manière professionnelle à la base, voilà.
Moi c'est Nayan Sakou Mufonkolo, moi j'ai été invitée, je suis l'artiste Poex invité pour cette lecture. Je fais beaucoup de choses, mais je ne fais pas tout. J'enseigne les théories critiques, j'enseigne de l'anglais, j'écris, et c'est un réel plaisir d'être là.
Ouais, complètement. plaisir aussi.
Alors maintenant on commence
là. Ouais, lecture.
Lecture.
Ouais, après. Assise.
Comment vous savez ça? Comme tu veux.
Oui. Alors, je vais me lever.
Yes.
Le premier texte que je vais lire, c'est un texte de Ingrid Martins. Dis-moi. Dis-moi, quel couteau te coupe? Rasoir, couteau dentelé, scie émoussée, sans dents, buzz bandé, harcelé des hommes qui commandent ton ventre? Dis-moi, quel couteau te coupe? Coutella, surin, lame, couteau à pain, racisme à chaque coin des roues, les rafles de la PM. Dis-moi, si ça ne coupe pas, qu'est-ce que te perce? Le gouvernement qui invite des maladies pour vendre direct le remède, les cris de « amour, pour favor », alors qu'on vend de l'amour qui ne dure pas. Dis-moi, qu'est-ce qui te dépèse? Naître pour être quelqu'un, grandir et devenir une farce. Ne pas quitter la maison par peur, sortir, devenir la menace. Ne pas avoir de ticket et voir qu'on arrête ton comparse. Dis-moi, putain, quel couteau te déchire? Les murs que te serrent, te bouffent et t'écrasent. Ces mêmes murs qui blessent, mais jamais t'offrent qui te caressent. Dis-moi, tu exposes ta poitrine ou tu brandis la lame. T'es à l'attaquer ou celui qui attaque? Tu arrêtes les envols ou tu aides à donner l'impulsion? Ton couteau est émoussé ou il coupe des poignets? De qui, toi? Tu fais quoi? Pour te juger, c'est vrai? T'es un animal ou t'es bouchère? Et peu importe qui tu es, si tu l'as abusé ou si tu abuses, en pleine guerre, je veux juste savoir de quel couteau tu uses. Ça, c'est la fin de la première. Maintenant, je vais lire un autre. C'est un texte de Pacha Anne qui s'appelle « Petite fille des colonisatrices ». Alors, 15e siècle, les trois siècles suivants furent dénommés « Époque de l'Inquisition ». Femme brûlée, vive, et le peuple chrétien donnant son approbation. Pendus, noyés et brûlés aux bûchères. Les gens jugeaient sorcières celles qui bien souvent n'étaient que guérisseuses. En vrai, la chasse sorcière a été une extermination raciale. Et les films ont montré une sorcière de Salem blonde. Trouvons cela normal. En fait, les Hollywoodiens avaient compris que ce serait plus vendeur toutefois, et je veux le dire, c'était de la macumba. Et bon, culte voodoo, chose qu'une blanche ne savait pas faire. Si c'était aujourd'hui, je connais milliards de celles qui dont le feu brûlerait. Moi-même, Ekedji, ma Ialoché, et même Ialorisha, Malval, mãe, Silva, mãe de Ná, toute une chacune qui les croyances de l'Église oserait contrarier. Les bains d'herbe seraient prohibés pour fréquenter la gira. Il faudrait se cacher au milieu de la nuit sur un chemin égaré. Même le bruit de la tabac devrait être diminué. Et si quelqu'un se dévoilait publiquement, il serait perdu. De suite, un évangéliste tomberait dessus pour affirmer « Tu es condamné !» Crier l'aloyer, cuisiner au dindé, le cori lancé, les réponses cherchées, mes animaux donnés, les bougies allumées, pour le saint prier. Vénérer Orisha, dis donc, si c'était aujourd'hui, pour quelle raison tu brûlerais? Les sorcières étaient mes ancêtres pratiquant la magie. pour survivre à un seigneur d'ingénieur violeur, tortionnaire au capitaine du mato qui suivait les ordres d'un feiteur. Les sorcières, c'était Luana, Joana, Mariana, enceintes d'un camper donnant naissance à des enfants non reconnus, faisant de la sorcellerie pour prendre soin d'un être, ne sachant pas encore prendre soin de leur propre vie. Et si l'histoire n'effraie ni fait frémir, un père viole sa propre fille, prenchant la parole de Jésus, et elle donne jour à la prophétie. Les églises continuent la même prédication. Si avant, elles étaient recherchées, aujourd'hui encore, il y a de la persécution. Dois-je vraiment le dire? Je ne vois pas d'église s'écrouler, mais je vois le terreiro brûler. Alors qu'ils parlent en langue, on est discriminé quand on parle yoruba. Amenés d'Afrique, rois, reines, pour esclavagiser, prière et chant, seul moyen de soigner, tambour et encens pour l'âme laver. Retirer de la mémoire ce qu'ils nous ont imposé à notre ancestralité, essayer de récupérer. Pratiquant les religions d'origine africaine, j'ai compris que c'était aujourd'hui l'Inquisition. Des miennes, et il n'en resterait aucune. Folie de savoir que vous effacez nos croyances, créez des divergences, prononcez vos offenses, car c'est notre âme qui est pleine de pestilence. Et oui, j'ai aussi déjà compris que vous nous blessez et qu'à la fin, vous cherchez un remède en nous. C'est fou. 500 ans se sont écoulés et la torture continue. Pour arriver enfin au XXe siècle, qu'une fille blanche se colle à moi et me dise: nous sommes les petites filles de sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Merde. Vous pensez que tout ça, c'est n'importe quoi? Petite fille de sorcière, mon cul. Vous êtes les petites filles des colonisatrices. Ah, Patch, mais d'où tu tires ça? Ta grand-mère ne savait même pas frire un œuf sans avoir une esclave. Alors, un sort, tu penses bien. Et ne le prends pas mal, mais on sait déjà que ta grand-mère était de l'Église universelle. Alors, je vais lire mon dernier texte. Oui. C'est le texte de Castiel Vitorino, brasileiro. Je suis encore flair et je suis en guerre. Je suis encore flair et je suis fatiguée de faire la guerre. Je suis encore flair qui désire mener bataille. Je suis encore flair et je vaincrai tous les combats. Je n'ai pas peur de la mort, mais de l'annihilation. Je suis un fragment de Iroquois et je peux mesurer dans mon corps les différentes temporalités qui ne les constituent. Mon expérience du monde est marquée par des fictions racistes et des aquilombamentos qui, comme moi, survivent depuis des siècles grâce à leur réinvention. Cela fait quelques centaines d'années que je suis reterritorialisée dans des zones de litiges et des technologies sont produites contre et pour ma mort. Brésil, Angola, Paraguay, États-Unis, d'Amérique, Portugal, France, Nigeria, Cuba, Argentine, Angleterre, Inde, Japon. Je négocie mon existence en divers gestes culturels et je me réinvente dans un linguage singulier, le pajuba. Les gestes sont des langages et les langages peuvent être écrits. Facétieuse, je me donne des nationalités qui me dématérialisent, dans la tentative d'assurer ma survie dans ces géographies belliqueuses. Ici et là, je crée des accords avec l'humanité occidentale et ainsi je parviens à fortifier le trafic international. D'information interdite, l'accès au savoir nous est refusé, ainsi que le fait de produire des contenus qui nous aident à forger des libertés. L'œuvre d'art, par exemple, sont une digestion singulière de désirs, des affects et de mémoires, produites et ingérées collectivement. Lorsque l'artiste a une position de mortification là où il vit, comme c'est mon cas, l'exercice de pouvoir savoir blanc fera en sorte de rendre ses expériences de liberté difficiles. Par l'esclavage, par l'extermination, par l'incarcération de masse de la population noire brésilienne. Dès lors, la difficulté que nous, corps dépatrialisés, pouvons développer à créer un ordre de liberté est un symptôme de notre propre expérience d'enfermement. Par conséquent, il ne faut pas créer de séparation entre l'œuvre et l'auteur, même si l'auteur opte pour l'anonymat. Car l'œuvre, dans toutes ses possibilités, ne fait qu'avec une intentionnalité de l'artiste sujet. Et en ce sens, chaque choix est toujours une redirection de la puissance vitale. Et puis, je vis dans une contemporanéité marquée par l'hybridation entre l'homo sapiens et les machines. Le processus de subjectivation actuel transforme mon plaisir en pilule, mon organicité en capital financier. Je suis un technocorps qui désire se transformer en flair. Je suis un corps flair qui quotidiennement coupe les fils qui le lient au système produit par le biocapitalisme. Mon sang, mon anatomie et toute ma biochimie se sont transformés en éléments de valeur dans l'économie. Alors, la désintoxication et la déprogrammation sont des pratiques fondamentales pour que notre vie continue de venir. Et si j'aperçois mon existence manipulée par le colonialisme comme une ténébreuse expérience de survie, alors mon désir de vie est un acte guerrier.
Lire après ça.
Good luck.
Thank you. Ok. Alors, moi j'avais envie de vous lire un passage de Miro Spinelli qui s'appelle « Autre ancestralité, la performance comme production d'une contre-archive ». Et je ne vais pas vous lire tout le texte, je vais vous lire plutôt juste un peu la fin. Mais du coup, pour contextualiser, en fait c'est un texte qui a été écrit pendant une résidence en Suisse, dans une bibliothèque qui s'appelle Andreas Durst, et qui est, je crois, dans les Grisons. Et donc, Miro commence ce texte en disant « Ce texte a été écrit lors d'un passage en Europe, plus précisément en Suisse et au Portugal, et il a été finalisé à Rio de Janeiro. La température varie de ce fait entre moins 6 et 38 degrés, entre déplacement et retour, entre les distances abyssales et le plus proche de ce que je connais de la sensation d'appartenance, sensation rencontrée tant de l'autre côté de l'Atlantique, quand j'étais en compagnie d'amis, que dans la solitude de l'appartement où je me trouve maintenant. » Et en fait, Miro développe dans cette bibliothèque toute une recherche sur l'archive et va faire un travail qui s'appelle « Shopping Papers ». Et « Shopping », c'est un œuf, c'est un oiseau qui pond ses œufs dans les nids d'autres oiseaux. Et du coup, en fait, ce que Miro va faire, c'est des interventions dans les livres de la bibliothèque. Et plus précisément dans des livres de voyageurs, colons et des livres hyper exotisants sur le lieu duquel il est issu. Et du coup, il y a des petites illustrations aussi dans le livre de... Soit il va écrire des textes, soit il va coller des images, enfin il fait plein de petites interventions comme ça, et il les laisse dans la bibliothèque pour toujours, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre les trouve. Et ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que, enfin je vais vous le lire, hein, mais je vous situe un peu pour pas avoir besoin de tout lire, c'est que cette personne va faire le parallèle entre l'histoire suisse et brésilienne à partir de sa propre naissance. Du coup, c'est parti. Il existe diverses blanchités et leur présence au Brésil a évidemment de multiples histoires. Certaines sont plus facilement traçables que d'autres. Mais étant dans la ville de Nova Friburgo, dont la fondation date du début du 19e siècle, et étant donné que les familles qui marquent mes origines, du moins pour la partie de l'histoire qui est racontée, se sont établies dans cette ville depuis leur migration de l'Europe vers le Brésil, je peux déduire sans beaucoup de mystère quel était le projet politique principal qui a amené à ce que ma naissance ait lieu dans cet espace-temps-là. Je suis le fruit tardif de la fin du XXe siècle, d'un projet de blanchiment, de la colonie esclavagiste datant du début du siècle passé. Si je retrace rapidement cette histoire généalogique, ce n'est pas simplement pour assumer un quelconque type de culpabilité blanche. La culpabilité en elle-même n'est pas une alternative suffisante à l'innocence. De manière plus complexe, on doit transformer la façon dont on regarde, dans leur ensemble, ces histoires, afin de comprendre aussi la manière dont l'imaginaire colonial s'actualise dans le quotidien, en subalternisant structurellement des personnes racisées, mais aussi des femmes et des personnes de genre et de sexualité dissidents, et complexifier plus encore de par les interactions entre ces groupes, parce que le genre, en tant que norme binaire, ne peut être dissocié de l'imaginaire colonial. Donc vous l'aurez compris, Miro est originaire de Nova Friburgo, qui est une colonie suisse au Brésil. Et ensuite, il va parler de Grada Quilombe pour continuer le fil de sa pensée. Donc Grada Quilombe, vous allez comprendre qui c'est si vous ne connaissez pas son travail. Dans une des œuvres de Quilombe, nommée Dictionary, nous faisons face à 5 écrans plats, encastrés sur un mur et disposés côte à côte, à hauteur des yeux. Sur chacun d'eux, avec un fond noir et des lettres blanches, se trouve une définition écrite par l'artiste de 5 mots présentés tour à tour en portugais et en anglais sur ses cartouches vidéo. Négation, culpa, vergogna, reconhecimento e reparação. Négation, culpabilité, honte, reconnaissance et réparation. Il s'agit, dans la tradition psychanalytique, des possibles phases éprouvées par la psyché après un trauma. Par ailleurs, dans son travail théorique, Quilombe se rapproche de la psychanalyse pour aborder ce qu'elle appelle le trauma colonial. L'artiste, qui est noir, est né au Portugal et vit en Allemagne. Bien qu'elle ait bâti sa carrière d'artiste et de théoricienne depuis plus de 20 ans, elle n'avait jamais été conviée à exposer dans son pays, ce qui peut être mis en relation avec le racisme fondateur de la culture portugaise. En ce sens, Quilombe a affirmé, lors d'interviews et du colloque qu'elle a tenu à Lisbonne pendant la semaine d'ouverture de ses expositions, que le Portugal en était encore à une phase de négation des aspects violents de la colonisation. On y parle des mers, des découvertes, des navires, avec un tel romantisme, comme si l'histoire coloniale et celle de l'esclavage, qui est ici complètement banalisée, avait été une rencontre interculturelle et non une histoire de torture, de génocide, de déshumanisation et d'exploitation patriarcale. Là, il cite Quilombe. Et ensuite, je n'oserais dire de manière si généralisante que le Brésil se trouve au même stade. Les différences qui existent aujourd'hui entre le Brésil et le Portugal sont nombreuses et complexes, à commencer par le fait que la population noire représente une partie prédominante de la population brésilienne, en passant par l'abîme social marqué par la précarisation de la vie, de ce côté-là de l'Atlantique, alors qu'on jouit de privilèges maintenus en place et qu'on ne peut pas, aujourd'hui encore, séparer de l'histoire coloniale. Mais en ce qui concerne la blanchité brésilienne, la négation est presque la seule chose que j'observe. Après tout, le racisme est une problématique blanche. Quilombe, 2016. La différence raciale en Occident fut inventée par des Blancs à notre service et on ne peut pas complètement résoudre le potentiel violent de nos corps. Nous pouvons cependant tenter de le réduire. Suivant la piste de Quilombe, dans le dernier article de son succinct dictionnaire, nous pouvons lire le mot réparation, qui me semble faire directement appel à son suffixe lassant, action, au mouvement, à la mobilisation et à la responsabilité. De plus, I believe that our more important role is in critiquing and awakening the structures that secure our existence at the expense of other, including colonialism, racism, and extractive capitalism. En anglais, génial. Je ne m'intéresse ici ni à une subjectivité héroïque, ni à une subjectivité de victime, étant donné tout particulièrement les mythes idéologiques nocifs de l'agentivité que ces extrêmes reproduisent. Parce qu'en fin de compte, en plus de trouver ce dualisme historiquement malhonnête et épistémologiquement violent, je considère que la question que nous devons poser en la matière n'est pas celle d'une subjectivité, mais plutôt celle d'une traversée, d'un contact, d'un toucher. Et là, c'est là où je voulais en arriver, Miro commence à parler de la performance, parce que Miro fait aussi de la performance, et du coup du lien avec l'archive. Performance, traversée, contact et toucher agissent directement sur la production de contre-archives, précisément dans l'espace vide laissé par les histoires et les archives officielles et hégémoniques, mettant ainsi en évidence les marques et les plaies et soulignant la chair plutôt que les os, le corps au détriment des organes. La notion de contre-archive est inaugurée par Anne Sektovich dans un court article intitulé « The Queer Art of the Counter-Archive » et est développée par la chercheuse Adriana Azevedo qui, dialoguant avec Derrida, affirme que l'idée même d'archive implique une vérité archiviste ou archivée. Elle donne corps au savoir historique produit à partir de l'accumulation de traces de la mémoire. Mais les traces et les inscriptions de la mémoire sont choisies et par l'archonte. C'est quoi un archonte? Voilà, un mot qu'on a traduit et dont je me souviens. Les traces sont choisies par l'archiviste, par celui qui fait les archives, qui fonctionne comme curateur et aussi comme censeur. Je pense qu'on s'est battu sur ce mot. La contre-archive surgit de ce constat de la partialité des mécanismes de production de la mémoire. Elle surgit quand on tire les photos cachées du coffre conservé au grenier, à la cave, au fond des armoires, en dessous des lits, à l'intérieur des vieux livres. De cette fouille, de ce tâtonnement, de cette pagaille, surgit des profondeurs archiviques. Le queer de l'archive, c'est reste. Azevedo, 2016. Par-delà la pertinence évidente de ces réflexions qui invitent à une ouverture de l'éventail d'archives possibles, déstabilisant ainsi les modes de production de la connaissance, je suggère que la performance peut aussi être un mécanisme de production de contre-archives, dans la mesure où elle permet une compréhension du corps comme « a kind of archive and host to a collective memory », une sorte d'archive et d'autre pour la mémoire collective. Le mode de permanence de la performance agit à l'autre extrême de la logique de l'archive comme document. Elle se donne au travers de réapparitions de ce qui a été sublimé par cette même logique. Et c'est par la voie du corps en relation que ces connaissances sont transmises à nouveau, rénovées ou transformées. La performance, donc, peut être un outil d'accès, par la voie du corps, aux ancestralités ensevelies par le domaine de l'archive, qui sélectionne quelle mémoire perdure comme vraie et valide et quelle ne perdure pas, privilégiant toujours la logique hégémonique et subalternisante dont nous avons parlé. Il existe de nombreuses ancestralités en cours. Comme dans les récits trans, une opposition frontale au déterminisme biologique est nécessaire pour qu'il prenne à la fois la forme d'un récit dissident et d'une matérialité corporelle. Un tel affrontement existe aussi quand on se réfère à l'hérédité, l'absence d'histoire avec lesquelles nous pouvons nous identifier à l'intérieur de la logique coloniale, qui porte avec elle le patriarcat et la cis-hétérosexualité compulsive telle que nous le connaissons, ou, plus précisément, l'absence de récits dont la logique opérante rend possible l'agencement de nos subjectivations, nous amène à rechercher ces récits dans d'autres espaces que ceux des institutions préétablies telles que la famille de sang. Ainsi, ceci nous permet d'associer nos subjectivités à des cosmogonies autres parmi les plus diverses.
Voilà. Très bien.
Alors moi j'ai choisi de lire une histoire en entier de Jota Mombasa parce que pour moi elle faisait sens d'être lue vraiment dans son entièreté et du coup je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec vous et de vous lire ce qui va suivre qui est intitulé Il est venu le temps où de tous côtés les lumières de cette époque furent allumées. Ce texte est le résultat d'un exercice d'écoute des mémoires du futur, un travail sur les tendances de la politique contemporaine, sur la continuité et les modes d'actualisation du génocide noir tout au long de l'époque moderne coloniale, mais aussi sur la dimension spirituelle de notre fugitivité et sur la force de nos fragilités intégrées. Il est le résultat d'un exercice spéculatif engagé dans un futurisme urgent qui se penche sur un futur immédiat en incitant des dispositifs prémonitoires qui pourraient servir à la prolifération de narrations qui nous permettent simultanément d'étudier la terreur et de concevoir des formes collectives pour la traverser. Finalement, je dédie ce texte à mes sœurs post-apocalyptiques avec lesquelles je planifie cette traversée de l'impossible de cette époque, et plus particulièrement à Michelle Mathiuzzi et à Paulette Linda Selva, qui dans la nuit du 28 novembre 2018 ont réalisé une lecture publique de ce texte dans le cadre du Boteco da Diversidade au CESC Pompeia à Sao Paulo. 20 novembre 2021. Il est venu le temps où, de tous côtés, les lumières de cette époque furent allumées. Tout est là, tout a toujours été là. Mais il est enfin venu le temps où, de tous côtés, on ne peut plus nier que la marche de la terreur avance et que l'apocalypse programmée s'est emparée de fait de tout le terrain de la vie commune. Les blindés de la police multipliés, les groupes d'hommes cis-hétéro armés, les cinéastes blanches renouvelant la blancheur totalitaire du monde tel que nous le connaissons, et, ainsi, de tous côtés est venu le temps où le printemps toxique de la dystopie brasilis a fait germer dans le ver assassiné du désespoir sa fleur la plus odieuse. 1er janvier 2019. Nous avons commencé à courir lorsqu'à résonner la première bombe. L'air raréfié de cette année-là perturbait notre souffle et il n'y avait que peu de voies par lesquelles fuir. Tout était assiégé et peu importe où nous nous tournions, nous trouvions un mur, un portail fermé à clé, une barrière électrique ou une meute de chiens de garde. La seconde bombe a fendu l'air avant ce qu'on avait prévu. J'ai perdu le souffle et quand j'ai regardé sur les côtés, j'ai réussi à voir, au travers du rideau de poussière et de fumée, que nombre d'entre nous commençaient à tomber. J'ai eu peur de rester seul, mais quelqu'un m'a pris la main. J'ai songé à respirer profondément, mais je ne le fis pas. Les bombes laissaient s'échapper des gaz que je ne pouvais simplement pas respirer. J'ai serré fort cette main dont je ne savais pas identifier l'appartenance, et je me suis senti soulagé de ne pas être seul. Nous avons couru, main dans la main, sans arriver à vraiment voir le chemin devant nous. Nous trébuchions sur les décombres, nous tombions et nous continuons, tous nos sens en fièvre, hébétés par la douleur de tout. C'en est arrivé au point où j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je ne sentais plus mon corps et je n'étais plus capable d'articuler ma propre position. Le monde autour de moi semblait s'être éteint et je voyais tout au ralenti. Un silence profond a parcouru l'espace autour de moi. De nouveau, j'ai senti la fermeté de cette main qui serrait la mienne. Je n'étais pas seul et nous étions ici. Encore. Ici. Et vivante. Nous avons couru et couru, changeant sans cesse de direction, alors que les voies se fermaient, et elles se fermaient en permanence. Il était impossible de fuir, mais c'était justement pour cela que nous insistions dans notre fuite. C'est alors qu'une bourrasque de vent a tranché la fumée en face de nous, et que pendant une seconde, nous avons aperçu, à quelques mètres, un faisceau intense de lumière noire se projeter depuis une fissure dans la terre. Le cœur battant fort, j'ai été tiré par la main dans cette direction, et j'ai eu peur, vraiment peur. Mais je me suis laissé entraîner. Ce n'était pas comme si nous avions l'embarras du choix. En réalité, il suffisait de réfléchir une seconde à la situation où nous nous trouvions pour en arriver à la conclusion que nous n'avions pas le choix. Nous étions condamnés à courir indéfiniment, à fuir sans pause, à nous cacher de toutes les patrouilles, à refuser tous les abris et à nous défaire de tous les pactes avec le monde. Quand la première bombe a résonné ce jour-là, nous avons instantanément su que nous étions déjà mortes, que le pacte qui soutenait, même précairement, chacune de nos vies était rompu à jamais. 21 novembre 2021. Nous avons tout perdu à nouveau. C'est la troisième fois que ça arrive depuis que le temps est venu. Les jours sont longs, presque infinis. Nous avons marché indéfiniment de par les tunnels, expulsés de partout, toujours à l'ombre, toujours ensemble. Ici, en bas, la vibration du monde peut être dérangeante. Il y en a encore qui parmi nous rêvent de retourner à la surface, qui rêvent de reprendre le monde et de lui rendre l'intégrité qu'il semblait avoir auparavant. Il y a aussi, parmi nous, celles qui se moquent des nostalgiques et qui insistent sur le fait qu'au fond, le monde n'a jamais été intègre et que d'une certaine façon, nous avons toujours été ici. Nous avons toujours été ici, de fait. Les tunnels dans lesquels nous vivons à présent furent construits par les premières d'entre nous qui ont parcouru ce territoire. Des personnes esclavagisées fuyant les coups de fouet de ceux qui prétendaient être leurs maîtres. Au fil des années, les chemins se sont ouverts et se sont multipliés tel un labyrinthe souterrain, une infrastructure ancestrale creusée dans la terre sous les pieds blancs de ceux qui, par la force de leurs armes, se sont imposés en maîtres du monde. On est dans l'obscurité ici. Souvent, nous nous perdons de vue, l'une ou l'autre, et c'est pour cela que nos sens s'aiguisent. Nous apprenons à discuter par le toucher, par l'odorat, par le son de la respiration, par la vibration qui traverse nos peaux et qui résonne en chacune de nous, et en toutes. C'est aussi comme cela que nous lisons les tunnels. Chacun des aspects de cette géographie insolite nous parle. L'humidité, les odeurs, le son des créatures qui sont là, elles aussi, et cette lumière noire, presque violette, qui de temps en temps émerge dans un endroit profond de la terre et inonde tout, illuminant, sans pour autant rendre visible. À chaque fois que nous perdons tout, elle vient et s'incarne dans nos corps, tout comme dans la structure même de tous les tunnels. Tout perdre, c'est l'expression que nous utilisons quand l'une d'entre nous meurt. Nous avons arrêté de dire mourir, parce qu'au final, depuis la première bombe, nous sommes toutes mortes, et même bien avant cela, depuis le premier bateau négrier, quand nos vies ont été toutes marquées comme faisant partie d'une masse unique et indifférenciée de mort en vie. En tant que morte vivante, certaines d'entre nous aiment à s'identifier à des zombies. Nous sommes des zombies parce que rigoureusement, nous ne sommes ni vivantes ni mortes, mais aussi parce que nous descendons du guerrier zombie d'Os Palmares. Dans les heures les plus joyeuses, quand nos cœurs s'apaisent un peu et que nous arrivons à ressentir des petites étincelles de vie qui incendient tout à l'intérieur de nous, nous aimons nous imaginer que Palmares est là et qu'au verso de tout apocalypse, une vie noire se manifeste et vibre et brille comme cette lumière qui émerge des profondeurs chaque fois que nous perdons tout. 17 juillet 1911. J'aimerais faire taire la maudite prophétie de João Batista de la Cerda, lui qui diffuse le programme d'extermination des vies noires au Brésil. Il a dit, lors de la conférence universelle des races à Londres, « Le métissage et la misère constitueront, d'ici 2012, le sujet idéal de la dystopie Brasilis. Un blanc souillé, forgé à partir du génocide noir et autochtone, capable de reproduire, dans les tropiques, les idées de vie, de monde, de société, de corps et de civilité du blanc européen. » 22 novembre 2021. Nous sommes fatigués. Nous ne savons plus comment calculer le temps, puisqu'ici, en bas, il n'y a jamais d'aube. J'écris ce journal désespéré, alors que je presse, du bout des doigts, ma tempe gauche à la recherche de quelques signaux ou événements télépathiques qui me permettent de transmettre la moindre chose à notre sujet. Je n'appelle pas à l'aide. La plupart d'entre nous refusent l'idée d'être sauvés, car nous savons que le monde, ou du moins le monde tel que nous le connaissons, ne nous réserve aucun espoir. Ce que je recherche quand j'essaie d'accorder mon esprit à un esprit d'en haut, c'est un moyen de perturber la paix qui nous ensevelit, c'est d'envahir la conscience pacifiée de ceux qui vivent au-dessus de nous et la faire trembler de la douleur dont nous sommes faites. Nous sommes fatigués, et nous sommes aussi furieuses. À certains moments, nous désirons si fort l'abolition de toutes les choses faites grâce à notre mort sociale que nous sentons la terre trembler autour de nous. Alors, nous nous tenons la main et nous refusons aussi la peur, désirant ensemble que la terre, cette fois-ci, fasse vibrer leur apocalypse. Janvier 2012. Ils arrivent. Je me suis réveillée dans la peur ce matin, j'ai senti une vibration dans la terre m'alerter, ils arrivent. J'ai voulu crier mais je n'ai pas trouvé ma voix. Je suis sortie dans la peur de la maison où je vis, me répétant pour ne pas oublier, ils arrivent. Je me suis cognée à une dame qui revenait de la boulangerie, j'ai serré fort ses épaules et j'ai répété une nouvelle fois, ils arrivent. Elle m'a tourné le dos et a continué son chemin. Dans les congrès de gauche, dans les salles d'université, dans les conversations au bar, dans les rues de mon quartier, tant qu'il est encore temps, j'insiste et je répète, ils arrivent. Le temps des assassins arrivera bientôt à son apogée. Les rues seront prises par leurs marches, les maisons envahies par leurs polices, les chansons seront chantées pour louer l'ordre qui est le leur, la vie sera découpée afin de tenir dans leur boîte, les corps seront formatés selon leur grammaire, les voix modulées pour répéter leurs hymnes, et ainsi, de tous côtés, ils viendront. Ils arrivent déjà. Avant, ils étaient en latence, lents, pas vraiment cachés, mais en retrait pour sûr. Et il y en a tellement qui, comme moi, depuis un certain temps, n'ont de cesse de pressentir leurs pas que d'entendre leurs chuchotements. Ils ont un plan et leur instant arrive. Ils tenteront de tenir la promesse faite par João Batista de la Cerda. Nous sommes aujourd'hui en 2012, l'année promise de l'apocalypse de la vie noire au Brésil. Et ils arrivent. 23 novembre 2021. La lumière noire a illuminé d'un coup le labyrinthe de tunnels et, ensemble, nous avons tout fait trembler aux alentours. Nous sommes fatigués de toujours tout perdre. Il nous faudra aussi prendre quelque chose, couper le monde. Cette fois-là, nous avons perdu la plus vieille des guerrières. Elle était malade, elle se plaignait de notre condition, elle était triste, profondément triste, mais toujours altière dans sa propre furie, à la hauteur de la rage elle-même. En son hommage, cette fois-ci, en perdant tout, nous avons fait en sorte qu'il reste quelque chose, comme si la douleur de ce qui nous traverse en était, finalement, arrivée à un point de débordement. Nous nous sommes donné la main et, autour du corps endormi de notre vieille, nous avons fait advenir un grand tremblement. Certaines ont craint que la terre ne s'effondre sur nous, mais au fond, nous désirions toutes une forme d'effondrement. La terre ébranlée a vibré au-delà des tunnels et nous avons senti arriver à nous les ondes de peur de ceux qui, au fil de toutes ces années, nous avaient fait vivre dans la peur. C'était une attaque, nous les atteignions. Nous faisions irradier notre douloureuse furie et nous sentions que, plus nous serrions la main l'une de l'autre, plus nous devenions intimes de la terre qui nous entourait. Abasourdis de notre propre pouvoir, nous brinque-ballions aussi, ébranlés par le tremblement que nous causions à leur monde, effrayés de la matérialité de notre pouvoir, de notre capacité à affecter de la sorte, de façon si directe, la structure de leur monde, la santé de leur monde, l'architecture et la grammaire de leur monde. Nous étions là, attachés par une force qui provenait justement de la réunion de nos fragilités. Nous étions faibles, brisés, et nous avions déjà tout perdu, tant et tant de fois. Et d'une certaine manière, depuis le labyrinthe de tunnels sous la terre, nous actionnions un tremblement de terre contre leur monde. De fait, il nous a semblé que nous étions prêtes à briser pour toujours leur monde. Jusqu'à ce que l'épuisement arrive et s'abatte sur nous et sur la terre elle-même. Nos mains se sont déprises et nous avons commencé à tomber, une à une. Le labyrinthe de tunnels était resté intact. Un moment, nous nous sommes toutes demandé en silence où nous étions, à quelle profondeur, où, au centre de tout, nous étions-nous retrouvés. 29 octobre 2018. Un silence profond a fait sombrer la matinée. La dernière alarme, et la plus évidente, avait finalement sonné. Ils étaient arrivés. Nous avions prévenu qu'ils viendraient. Ils étaient arrivés. 24 novembre 2021. Nous désirons profondément que le monde tel qu'il nous a été donné prenne fin. Et c'est là un désir indestructible. Nous avons été soumises à toutes les formes de violence, fécondées dans l'obscurité impossible de toutes les formes sociales, condamnées à naître déjà mortes et à vivre contre toute formation, au centre de toute formation. Nous désirons profondément que le monde tel qu'il nous a été donné prenne fin. Qu'il prenne fin discrètement, au niveau particulier, dans l'intimité catastrophique de ce monde destitué de monde, ce monde que la Terre elle-même rejette. Ces mots ont circulé, par télépathie, en toutes celles que nous étions, pas vraiment comme une pensée, mais comme quelque chose qui vibrait hors de notre corps, dans la chair du tunnel, celle de notre vieille, de nous-mêmes. Nous désirons profondément que le monde tel qu'il nous a été donné prenne fin. La lumière noire qui s'était incarnée en tout, dans toute son intensité, a coulé petit à petit entre les recoins du labyrinthe, baignant nos corps et s'enfonçant de nouveau dans les profondeurs. Longtemps, nous avions été là, à cuisiner avec la terre. Petit à petit, à mesure que nos corps recouvraient l'accès aux jambes, nous avons décidé de nous séparer et de nous déplacer dans le labyrinthe de tunnels, tentant de capter les répercussions de notre attaque et d'étudier les incidences de ce que nous avions fait. Alors que je marchais, je me suis rappelé une phrase que j'avais apprise peu de temps avant la matinée du 1er janvier 2012. Que la victoire récompense ceux qui auront fait la guerre sans l'armée. J'ai senti que ce souvenir ricochait sur les parois du tunnel et vibrait en même temps en toutes celles qui m'accompagnaient. Aucune réponse n'a vibré. Nous avons continué en silence, étudiant le labyrinthe. Tout semblait calme, tout semblait étrangement calme. Nous étions vivantes. Nous allions vivre.